Europe 1.
Le nom de Vauban évoque immédiatement des villes fortifiées. Mais Sébastien le prêtre, marquis de Vauban, est bien plus qu'un ingénieur militaire. Il a mis tout son génie des fortifications au service du roi Louis XIV pour remporter des sièges en versant le moins de sang possible. Bien qu'élevé au rang de maréchal, ce gentilhomme n'a jamais perdu le contact avec le petit peuple. Dans sa recherche de justice sociale, il a même cherché à révolutionner les impôts. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Vauban, un génie au service de Louis XIV. Épisode 1, plus de sueur, moins de sang. Nous sommes en juin 1657 dans l'est de la France, au pied de la citadelle de Montmédy. Le royaume de France de Louis XIV, jeune souverain plein d'ambition de 19 ans, est en guerre contre l'Empire espagnol. Les Français ont décidé d'attaquer la citadelle de Montmédy, qui se trouve aujourd'hui en Lorraine, mais à cette époque faisait partie des Pays-Bas espagnols. Pour la prendre, il faut l'assiéger. La prise de cette forteresse ennemie ne devrait pas être trop difficile. Il n'y a que 700 soldats et une centaine de familles à l'intérieur. Ce n'est rien face aux 10 000 soldats français. Louis XIV a installé son campement et sa tente sur un point en hauteur pour observer les manœuvres sans se mettre en danger. Il laisse ses quatre ingénieurs organiser les tranchées pour percer les murs de la forteresse. Parmi eux, il y a Sébastien le prêtre de Vauban. Il porte le titre d'ingénieur ordinaire du roi. C'est un passionné de guerre et de siège. Il n'a que 24 ans, mais il sait qu'il est à sa place, au plus près des premières lignes, quand il guide les travaux de terrassement pour attaquer une forteresse. Mais le siège de Montmédy n'est pas comme les autres. Les assiégés résistent avec férocité. Ils ont de l'eau et des vivres pour longtemps, et ils harcèlent les soldats de Louis XIV depuis le sommet de leur rempart avec leur artillerie. Même les femmes jettent des seaux d'eau bouillante sur les fantassins qui s'approchent trop près. Plusieurs balles de mousquet touchent Vauban. Il en garde les impacts sur sa cuirasse. Les blessures, il y est habitué. Mais il a plus de chance que ses trois confrères ingénieurs, tous morts en quelques jours. Le siège de Montmédy repose donc sur ses épaules à lui. Un siège qui va durer 46 jours, durant lesquels 300 de ses hommes sont tués et plus de 1800 sont blessés. Des victoires au prix du sang, Vauban n'en veut plus. Cette boucherie le dégoûte. Après Montmédy, Vauban va imposer un nouvel art de la guerre et tant pis s'il doit se heurter aux réticences de la vieille noblesse d'épée en manque de panache. Plus de sueur, moins de sang. Ça va devenir son credo. Sébastien, le prêtre de Vauban, naît dans le Morvan le 1er mai 1633, sous le règne de Louis XIII. Il appartient à la petite noblesse. Sa famille n'est d'ailleurs pas très ancienne. Les Vauban seraient nobles depuis trois générations seulement. Ses parents ne sont pas bien riches non plus. Comme à cette époque, la solidarité familiale n'est pas un vain mot, le couple Vauban et leur fils vivent dans le château de Ruère, propriété de leur cousin. Le petit Sébastien est un enfant vigoureux. Très jeune, il court les bois aux alentours du château et joue avec les enfants des paysans. C'est à leur contact qu'il apprend l'empathie et à faire attention au petit peuple. Lui, il a des chaussures aux pieds alors que les petits paysans n'ont pas toujours des sabots pour protéger les leurs. Sébastien joue aussi avec ses cousins plus fortunés. C'est sans doute avec eux qu'il apprend le maniement des armes et à monter à cheval. Ce sont des connaissances essentielles pour un gentilhomme de son temps. Mais Sébastien passe aussi beaucoup de temps avec son père. Celui-ci sillonne la région pour greffer des arbres fruitiers dans différents domaines. Au XVIIe siècle, les fruits n'ont pas encore le goût qu'on leur connaît. C'est pour ça qu'on les cuisine souvent plutôt que de les manger crus. Mais le père de Sébastien a su croiser les espèces du Morvan pour obtenir des pommes et des poires de meilleure qualité. Auprès de son père, Sébastien voit donc comment les fermiers et les grands propriétaires gèrent leur domaine et comment les faire fructifier en veillant à leur rentabilité. Autant de connaissances qu'il mettra plus tard à profit, vous allez voir. Mais tout ça ne suffit pas à une bonne éducation. Il fréquente aussi un collège à Sémur-en-Auxois, où il apprend la grammaire, le latin, les mathématiques, et le dessin le passionne. Il faut dire que dès l'enfance, les problèmes de mathématiques ressemblent à de la logistique de guerre. Il est question de boulets de canon et de fortifications que l'on peut esquisser avec des formes géométriques. Tout est là, déjà en germe, pour lui permettre de devenir un fantastique ingénieur militaire. En 1643, alors que le jeune Sébastien a 10 ans, le roi Louis XIII meurt des suites d'une maladie. Vous connaissez l'adage, le roi est mort, vive le roi! Louis XIV lui succède donc. Il n'a pas encore 5 ans, et c'est la reine Anne d'Autriche qui obtient le statut de régente. Quelque temps plus tard, c'est le début de la Fronde, une révolte du Parlement et d'une partie de la haute noblesse. Ils se battent pour réduire les pouvoirs du souverain à leur profit. En 1651, Louis XIV a 13 ans. Il est désormais majeur, mais la Fronde est loin d'être finie. Il va devoir se battre pour instaurer son pouvoir personnel et sans partage sur le royaume. Le prince de Condé est alors son principal ennemi. Alors qu'il est de passage dans le Morvan, on présente au prince le jeune Sébastien, le prêtre de Vauban, âgé de 17 ans. Le jeune homme, comme tous les garçons de son époque, rêve d'une vie d'aventure et de panache. Quoi de mieux que l'armée pour ça ? Dès l'année suivante, en 1652, le jeune Vauban se distingue sur le champ de bataille pour ses actes de bravoure. Il participe au siège de Sainte-Ménéhoulde et se fait connaître en traversant à la nage une rivière sous le feu des troupes royales. Sa réputation de jeune ingénieur de l'armée lui vaut d'être élevé au rang de sous-officier par le prince de Condé. En 1653, un événement va changer la vie de Vauban. Il est toujours au service du prince de Condé, qui s'est lui-même mis au service du roi d'Espagne, l'ennemi du roi de France. Ce jour-là, il patrouille dans une forêt avec une escouade rattachée au prince de Condé quand des soldats royaux les attaquent. Tous les hommes sont faits prisonniers. Mais Vauban, lui, il négocie de pouvoir rester à cheval et en possession de ses armes. Il refuse d'être humilié, même s'il veut bien se rendre. Aussi fou que ça puisse paraître, les soldats royaux le laissent entrer à cheval et en armes dans leur camp. C'est là qu'il rencontre le cardinal de Mazarin, ancien premier ministre de Louis XIII, puis de Louis XIV, dont il est l'éminence grise. Cette rencontre, c'est celle de deux intelligences. Mazarin et Vauban se plaisent, et dans ce contexte de troubles politico-militaires où les alliances ne sont pas plus solides que du fer blanc, Vauban passe dans le camp royal sans hésiter. Il est maintenant au service du roi de France, et il y restera jusqu'à la fin de sa vie. De toute manière, la Fronde est officiellement terminée en cette année 1553, et le prince de Condé est en disgrâce pour ses félonies. Vauban a tout à gagner à changer de camp. Le jeune ingénieur reste un homme de guerre. Il intègre le régiment des Repentis, c'est le nom qu'on donne à la troupe formée par d'anciens frondeurs de province. Mais maintenant, Vauban a trouvé son mentor, Louis-Nicolas de Clerville. Celui-ci est un ingénieur et un mathématicien. Vauban apprend les subtilités de l'art du siège avec lui. Il est temps de faire une petite pause technique. Si vous voulez briller en société, ne parlez pas de siège, mais de polyorcétique. La polyorcétique, c'est la version chic de l'art du siège. Et l'art du siège, en théorie, c'est très simple. On entoure une ville de manière à ce que rien ne puisse ni sortir ni entrer. Ceux qui sont à l'extérieur attaquent la ville et ceux qui sont à l'intérieur se défendent. Les assiégés gagnent s'ils parviennent à pousser leurs ennemis à lever le siège. Les envahisseurs gagnent si les assiégés se rendent. Ça a l'air simple comme ça, mais dans les faits, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de logistique et de méthode. Maintenant qu'on peut parler de polyorcétique ensemble, reprenons notre récit. Avec son mentor, Monsieur de Clerville, Vauban apprend donc les subtilités de la polyorcétique. Et là, son goût des mathématiques et du dessin va lui être bien utile. Son talent lui vaut d'être remarqué par le jeune Louis XIV qui lui accorde une solde mensuelle de 50 livres et l'élève à la fonction d'ingénieur ordinaire du roi. Bon, 50 livres, ça fait à peu près 1800 euros aujourd'hui. Ça nous semble pas fou, mais à l'époque, c'est une vraie petite somme. Quand le siège de Montmédy commence en 1657, Vauban, âgé de 24 ans, est déjà un ingénieur respecté. La victoire contre cette place forte devrait aller vite. 10 000 fantassins et 3 000 cavaliers, contre 700 soldats dans une forteresse. En 15 jours tout au plus, c'est plié, la ville est prise. Mais rien ne va se passer comme prévu. Les soldats de Montmédy ont beaucoup d'artillerie. L'objectif est de percer des tranchées jusqu'au mur de la forteresse pour la faire exploser. Mais les tranchées forment des entonnoirs en direction de Montmédy. Les soldats dans les tranchées sont comme pris dans une souricière. Ils sont harcelés par les tirs de mousquets et de canons. Ils avancent avec peine et dans un torrent de sang. Les autres ingénieurs qui travaillent avec Vauban sont tués au bout de quelques jours. Vauban lui-même est blessé, mais il tient bon. La ville est finalement prise en 46 jours. Pour lui, c'est trop. L'art du siège doit être amélioré pour coûter moins de vie. Sa vision de la polyorcétique est à rebours de l'idéal chevaleresque qui préfère attaquer vite et fort, et tant pis si on meurt. Un vrai chevalier méprise la mort. Le problème, c'est que les soldats dans les tranchées ne sont pas des nobles, mais des paysans enrôlés dans l'armée. Et ce sont ces villes-là que Vauban veut protéger. Le 7 novembre 1659, Louis XIV et Philippe IV d'Espagne ratifient la paix des Pyrénées. Les deux royaumes ont mis fin à leur conflit. La France gagne à nouveau les territoires au nord-est pris aux zones flamandes sous contrôle espagnol. Cette paix passe aussi par le mariage du jeune Louis XIV avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche. Vauban profite de cette période d'accalmie pour rentrer dans le Morvan. Il épouse Jeanne Donnay, la fille du baron de la Nièvre, une femme intelligente et éduquée, capable de tenir seule un domaine, c'est-à-dire une femme noble, mais qui connaît parfaitement les réalités de la paysannerie. Ça plaît beaucoup à Vauban, qui la considère comme son alter ego féminin. Le couple a deux filles, Charlotte et Jeanne-Françoise. Mais la paix ne dure jamais longtemps avec Louis XIV qui rêve d'annexer toujours plus de territoires espagnols au nord. Eh oui, les Habsbourg à la tête de l'Espagne ont alors un immense empire et ils prennent les Français en tenaille entre les Pyrénées et les Flandres. C'est dans ce contexte, en 1673, qu'a lieu le siège de Maastricht où Vauban va encore une fois s'illustrer et innover. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Vauban, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite et sur l'appli Europe 1.